Alléluia.
Alléluia.
Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on a du pain sur la planche, mais le pain du ciel, c'est le pain qui nous donne la vie. Alors, j'espère que l'Esprit de Dieu saura nous conduire, comme je le disais, même si je n'ai malheureusement pas pu avoir le temps souhaité pour préparer, eh bien, j'ai confiance dans cette onction qui veut nous enseigner toutes choses. Et j'espère donc qu'elle sera parmi nous pour nous parler de ce sujet fondamental de l'obéissance. Alors, peut-être pour introduire, pour vous donner, je dirais, un petit peu la fresque de ce que l'on va faire, du moins de ce qui est prévu de faire. Il y a 6 sessions normalement. Je doute que nous puissions faire tout ce qui est prévu, mais peut-être que dans le cadre de la formation, nous pourrons continuer et les personnes qui sont venues pourront écouter. Donc le premier chapitre, on pourrait dire, ce sera les fondements de la création et de la chute du diable et de l'homme. Je vais y venir dans un instant si on veut parler de l'obéissance et l'obéissance pour nos vies, mais pour comprendre l'importance de l'obéissance pour notre propre vie, eh bien, il est important de poser les fondements dans lesquels cette obéissance s'inscrit. Ensuite, on parlera, après les fondements de Dieu, pourrait-on dire, les fondements de la création et de la chute, on parlera des fondements du diable, si l'on peut dire ainsi, de ce monde et de cette fin des temps. Alors, dans une troisième partie, j'aimerais vous parler du chemin et des moyens pour vivre une véritable obéissance. Là, on posera des fondements qui sont plus, je dirais, les fondements quant à notre conversion, quant aux bases de notre vie chrétienne. Et alors, ce sera plus de la prédication. J'aimerais, dans un 4e et 5e chapitre, vous parler de différentes caractéristiques de l'obéissance qui ont trait à la marche du chrétien. J'aurais envie de vous parler que de ça, de prêcher que cela, parce que c'est bien le plus important de pouvoir savoir comment appliquer l'obéissance à notre propre vie, comment la mettre en pratique pour être d'authentiques chrétiens. Mais on va donc, dans un premier temps, parler des fondements. Si nous avons le temps, dans un sixième temps, on parlera des conséquences de la désobéissance. Mais si on entend bien les 5 premiers points, peut-être nous n'avons même pas besoin de parler de ça. Amen. Voilà. Alors, pour commencer ce premier chapitre, les fondements de la création et de la chute du diable et de l'homme, j'aimerais commencer par vous lire une méditation du Tout pour qu'il règne. Alors, pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas dans mon habitude d'inciter forcément à lire des livres, mais plutôt à vivre ce que l'on peut lire dans les livres. Mais ce Tout pour qu'il règne, je crois, est vraiment un livre précieux, inspiré par Dieu, écrit par un homme de Dieu qui vivait. C'est évident, quand c'est des méditations quotidiennes, quand on lit ces méditations d'Oswald Chambers, qu'il vivait ce qu'il dit. Et je crois que ce sont des exhortations de vérité qui veulent faire beaucoup de bien au peuple de Dieu. Et j'en lirai certainement plusieurs pendant ce séminaire. La première, l'obéissance nous éclaire. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. L'obéissance rend la communion parfaite. Si pour un instant vous cessez d'obéir, les ténèbres et la mort se mettent aussitôt à l'œuvre. Toutes les révélations de Dieu sont lettres mortes tant qu'elles ne sont pas éclairées par l'obéissance. Toutes les révélations de Dieu sont lettres mortes tant qu'elles ne sont pas éclairées par l'obéissance. Ce n'est pas la philosophie ou la réflexion qui les rendront plus compréhensibles. Mais dès que vous obéissez, elles s'illuminent instantanément. On parle là des révélations de Dieu. Il faut, pour que la vérité de Dieu agisse en nous, que nous en laissions imprégner. Le seul moyen pour arriver à la connaître, c'est de cesser vos recherches et de naître de nouveau. C'est pas beau ça. C'est tout ce qu'on veut vivre ici. Le seul moyen pour arriver à la connaître, la vérité de Dieu, c'est qu'elle s'imprègne en nous, c'est d'arrêter de chercher, c'est d'arrêter de vouloir connaître et comprendre, mais c'est de naître de nouveau. Obéissez à Dieu sur le point qu'il vous montre, et aussitôt votre chemin s'ouvrira. Nous lisons des volumes sur l'œuvre du Saint-Esprit, alors que 5 minutes d'obéissance radicale peuvent tout rendre clair comme le jour. Je pense qu'un jour je comprendrai tout cela, dites-vous. Vous le pouvez dès maintenant. Ce n'est pas l'étude qui vous éclairera, mais l'obéissance. La plus petite parcelle d'obéissance suffit à vous ouvrir le ciel. Et les plus profondes vérités divines vous sont aussitôt révélées. Dieu ne vous accordera pas de lumière nouvelle sur sa personne tant que vous n'aurez pas obéi aux lumières déjà reçues. Voilà, je pourrais vous lire ça et puis aller m'asseoir, n'est-ce pas ? Alors que Dieu maintenant donne sa grâce pour que nous puissions poser des fondements afin que nous puissions pratiquer l'obéissance et non pas des fondements pour connaître bien des choses qui pourront nous apporter des connaissances, mais la connaissance, la naissance avec Christ pour marcher comme Jésus, vivre comme Jésus, servir comme Jésus, être glorifié comme Jésus l'a été et régner avec lui. Éternel Dieu de gloire, viens bénir ce séminaire, viens sanctifier ces temps et sois l'Éternel au milieu de nous. Daigne, Père Céleste, poser dans notre vie les fondements qui viennent d'en haut, qui viennent du ciel et qui nous feront alors rentrer pleinement dans notre vocation. Amen. Alors, sans vouloir contredire ce que je viens de lire, je commencerai par vous lire une définition tirée du dictionnaire Le Robert. Que veut dire l'obéissance ? L'obéissance, c'est premièrement se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Deuxièmement, se conformer, se plier à ce qui est imposé par autrui ou par soi-même. Obéir à un ordre, l'exécuter. Troisièmement, être soumis à une volonté. L'outil obéit à la main. Être soumis à une nécessité, une force, une loi naturelle. Les corps matériels obéissent à la loi de la gravitation. Deuxième définition, cette fois un peu plus biblique, du dictionnaire Emmaüs. L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure, Dieu ou des hommes, reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend l'obéissance. Dans le cas de Dieu, elle implique, premièrement, la reconnaissance de sa souveraineté, deuxièmement, la révélation de sa volonté, et troisièmement, la compréhension de cette volonté. Et c'est donc tout ce que je souhaite arriver à faire avec vous maintenant, nous donner les fondements de la compréhension de la souveraineté de Dieu, de sa volonté pour nous, hommes de la terre qui étions faits, on va le voir, pour le ciel. Et comme je l'ai dit donc tout à l'heure, avant de parler de notre marche, c'est bien ce qui nous intéresse, parce que comme on vient de le lire, nous pouvons lire des volumes ou entendre des heures de séminaire avec l'onction du Saint-Esprit, mais 5 minutes d'obéissance radicale peuvent tout rendre clair comme le jour. Donc c'est ça le but, que les fondements qui vont être posés maintenant nous aident à pouvoir atteindre ce but. L'obéissance se conçoit par rapport à une autorité reconnue et acceptée. Alors je crois que plus on va être éclairé sur les fondements de l'obéissance, plus alors on va obéir clairement dans le concret de notre vie. Une obéissance, on a besoin de la comprendre. Plus on va la comprendre, plus on va la saisir, plus alors on va la vivre de tout cœur, avec amour. Alors, premièrement, le premier fondement, le fondement des fondements, celui dont on ne devrait pas avoir besoin de parler, Dieu. Dieu règne. Dieu est un seigneur. Dieu est un maître. Dieu règne dans son autorité. Dieu est le seigneur d'un royaume. Il est le Dieu souverain. L'Éternel règne, nous dit le psaume 93. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Lorsque Dieu a créé les anges, lorsque Dieu a créé cette terre, tout était bon, tout était parfait. Parce que Dieu règne, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bon, parce que Dieu exerce sa souveraineté, parce que Dieu exerce son autorité, parce que Dieu tient le sceptre et parce que tout lui est soumis, parce que tout lui obéit, il y a la paix, il y a la joie, il y a la liberté, il y a la félicité, il y a le bonheur, il y a toute la perfection de Dieu dans le cœur de ses créatures. Lorsque Dieu a créé, tout était parfait. On peut le lire lorsque nous prions tout à l'heure, ces paroles de l'Apocalypse venaient dans mon cœur. Il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen !» Son autorité dans le ciel, tout le monde lui dit « Amen !» Elle ne se discute pas et elle est le bonheur, elle est la joie, elle est l'harmonie de tous. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Voilà ce qui sera dans le ciel. Mais voilà, bien-aimés, qu'avant la chute de l'homme, il y a eu la chute du diable. Vous savez bien que c'est le serpent qui est venu tenter Ève, qui a mangé le fruit, qui l'a donné à Adam, qui l'a mangé à son tour. Avant que l'homme chute, et on va y venir, c'est le diable qui a chuté. Comment le diable a chuté ? Le diable a chuté par insoumission. Le diable a chuté par désobéissance. Mais je dirais, au plus profond, le diable a chuté par insoumission. On peut lire Ésaïe 14, verset 13. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Tout est là, bien-aimé. Dans la chute, tout est là. Nul n'est semblable à Dieu, nous dit la parole. Il est majestueux, il est tout ce qu'on a lu il y a quelques instants. Mais la chute du diable, elle est venue d'une insoumission. Le diable aussi, majestueuse créature, il n'était pas Dieu, il était une créature, appelée à se soumettre et à obéir au Créateur. Et dès le moment où cette soumission lui apparut, comme, c'est le grand mystère, je ne veux pas trop en parler, parce que, il faut le dire, on va le lire, un verset encore d'Ézéchiel. Ézéchiel qui nous donne quelques versets quant à la chute du diable. Mais je crois qu'il faut approcher ce mystère de la chute du diable avec humilité. On ne peut pas tout vouloir, tout comprendre et tout expliquer. Dieu n'a pas créé le mal. C'est par la chute du diable que le mal est rentré dans le monde. Mais comme tout était parfait, comment le diable a pu avoir cette pensée, lui qui était un esprit pur, comment cette pensée de l'insoumission a pu venir en lui? Bon, c'est un mystère. Je crois que les anges, qui ne sont que des esprits purs, n'est-ce pas? Nous sommes corps, âme et esprit. Eh bien, ils ont, je dirais, des facultés spirituelles, des facultés de l'esprit encore bien plus grandes que les nôtres, et peut-être encore plus compliquées que les nôtres. Parce que souvent, nous sommes compliqués, n'est-ce pas? L'évangile, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on croit. Et bref, on ne peut pas expliquer clairement, mais cette pensée, pourrait-on dire, d'être semblable au Très-Haut, a pu venir dans cet ange. Et aussitôt, la Bible nous dit, tu as été précipité dans le séjour des morts. Ézéchiel 28, 2, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme, on pourrait dire, toi, tu es une créature. Ces paroles, elles vont pour nous, certainement qu'elles nous aident à approcher le mystère de la chute du diable, Ézéchiel 28, toi, tu es homme, toi, tu es une créature et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Là est tout le mystère de la chute. Et rien qu'avec ces quelques mots qu'on vient déjà de dire, vous pouvez vous représenter l'importance de l'obéissance, de la soumission. L'obéissance, c'est se soumettre à Dieu, à une volonté, à une souveraineté qui a besoin de nous être révélée, n'est-ce pas? Comment le diable, qui alors nous y venons, a tenté l'homme à chuter? Il s'est cru semblable à Dieu. Le diable, bien-aimé, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu inverser l'autorité. Il n'a pas clairement reconnu le règne de Dieu. Il ne s'est pas trouvé, et pourtant il l'était, pleinement heureux, pleinement dans le bonheur, dans la soumission où il trouvait la vie. Et ça lui a été fatal. Ça a été la chute. Alors, la condamnation, elle est sans appel, elle est terrible. Une condamnation éternelle, séparée de Dieu à jamais. Dès le moment où le diable s'est pris pour autre chose que ce qu'il était dans le gouvernement de Dieu, dans le règne de Dieu, dès le moment où il a désobéi, il a été condamné avec tous les autres anges qu'on appelle déchus, parce que déchus de cette influence du règne de Dieu. Et il a été séparé de Dieu. Il est, on pourrait dire, sorti de la vie. Dieu, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est la vie. Dieu, il est le je suis. Si on ne veut pas se rendre compte, on y vient dans un instant, qu'on est l'ombre de Dieu. On dit l'image de Dieu. Je vais déjà vous le dire. Tselem Elohim en hébreu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Tselem Elohim, ça veut dire plus que image, l'ombre de Dieu. Et je crois que c'est beaucoup plus parlant que l'image. Parce que des images, on peut en créer. Hein, on a des infographistes qui sont ici au séminaire. On peut faire plein de choses avec des images. Mais l'ombre, on ne peut pas la créer. On est l'ombre de quelque chose. L'ombre de quelqu'un. Et nous sommes l'ombre créée comme l'ombre de Dieu. Il est le seul qui est la vie. Il est le seul qui est le je suis. Et aussitôt, ombre que nous sommes, mais qui trouvons existence, qui trouvons la vie, nous nous disons être quelque chose, nous cessons d'être. Comme si le soleil se couche, l'ombre n'est plus là, parce qu'on s'est séparé de celui qui nous donne la vie. Donc c'est ce qui s'est passé avec le diable. Et là, bien aimé, on a un fondement qui doit être clair, un fondement qui est fort. Dieu est le seul, on l'adore, on lui est soumis. Il y a un gouvernement. Je le mets entre guillemets parce que c'est un mot souvent à raison fâcheux. Il y a une hiérarchie. Ça veut dire il y a un ordre. Il y a un ordre, on le voit au travers de toute la parole de Dieu. Dieu établit les choses comme il est bon. Même s'il y a des choses qu'on pourrait ne pas comprendre, soyez persuadés que quand on rentrera en robe blanche avec nos palmes, c'était les quelques versets avant ce que je vous ai lu de l'Apocalypse, on chantera la même chose qu'eux. On dira Amen pour tout. Même si parfois il y a des choses qui pourraient nous titiller, nous paraître bizarres, on va y venir, c'est à cause que cette chute, elle est rentrée en nous. Mais nous dirons Amen. Dès le moment où on veut changer cela, où on ne s'y soumet pas, c'est la chute éternelle et on sort du règne de Dieu. Alors, passons maintenant à la chute de l'homme. Après la chute du diable, nous avons eu la chute de l'homme. Malheureusement, ce qui s'est passé dans le ciel s'est passé sur la terre. Lorsque Dieu crée, nous lisons dans le livre de la Genèse, que par cinq fois, il vit que cela était bon, n'est-ce pas? Et une sixième fois, quand il parle de l'homme, suite à la création de l'homme, après avoir dit « Dieu vit que cela était bon », il nous est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ». Ça veut dire « parfait », à l'image de son Créateur. Quand Dieu crée l'homme, il dit « c'est très bon ». L'homme, on va y venir, c'est la créature la plus accomplie, la plus parfaite que Dieu a faite. Retenez une chose, quand Dieu dit c'est bon, ça veut dire il y a l'harmonie. C'est harmonieux, c'est la félicité, le bonheur. Retenez aussi, il y a l'unité. Il n'y a pas la division, il y a l'unité. Il y a le même cœur, la même âme, le même chant. Retenons aussi, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Quand Dieu crée, quand il dit c'est très bon, c'est l'harmonie, c'est parfait, il n'y a pas d'opposition. Alors Dieu, il va créer l'homme à son image, comme on vient de le lire tout à l'heure. Alors, qu'il soit clair que nous sommes l'ombre de Dieu et que sans lui, sans dépendre de lui, sans être soumis à lui, regardez une ombre, lorsque vous en avez une là derrière, ça tombe bien. Dès que je lève le bras, mon ombre, l'ombre de ma main, elle ne va pas descendre. Dès que je lève le bras, l'ombre, elle se lève. Mais le diable, il a cru être une ombre qui descend. Et nous avons cru la même chose. Nous sommes absolument dépendants de Dieu. Notre vie se trouve dans la soumission. Et aussitôt que, comme le diable, les versets que l'on a pris tout à l'heure, nous pouvons nous les appliquer à nous-mêmes. Aussitôt que nous prenons notre volonté pour la volonté de Dieu, nous sommes séparés de Dieu, séparés de la vie. La vocation de l'homme, l'homme qui est ni un animal, ni un ange. L'homme, il est corps et il est esprit, ému par cette âme, d'accord, qui pourrait, on pourrait dire, est un instrument qui lui donne de vivre. Il y a des animaux, ils ont une âme, un principe de vie, mais ils n'ont pas d'esprit. Il y a des anges, ils ont un esprit, mais ils n'ont pas de corps. Parce qu'ils sont des purs esprits, ils n'ont pas besoin d'âme. L'homme, il est esprit et il est corps. Il est de la terre et du ciel. Du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Alors, sur la terre, bien-aimé, l'homme, il est celui qui a pour vocation de dominer. L'homme, parce qu'il dépend de Dieu, parce qu'il était créé pour être en harmonie avec Dieu, en harmonie avec le ciel, que son esprit soit en communion d'esprit avec ce ciel où règne l'esprit, eh bien, de cette communion avec Dieu, de cette harmonie-là, l'homme, Dieu l'appelle clairement à dominer et à assujettir la terre pour amener ce règne du ciel sur la terre. Pour faire de cette terre un Éden, ça veut dire un jardin de délices, une terre de délices, comme le ciel est délicieux. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, bien-aimés, si dans le plan de Dieu, l'homme devait dominer sur la création, pourrait-on dire, l'homme était appelé dans sa vocation, lui qui était du ciel et de la terre, à être celui qui allait aussi dominer sur les puissances de ténèbres. Dominer sur ces puissances, pourrait-on dire, de l'insoumission, sur ces puissances spirituelles de la chute. C'était sa vocation, c'était son rôle. Dieu a placé l'homme dans ce jardin et l'homme avait une vocation d'être, nous pourrions dire, le garant de la vie sur la terre en communion avec le ciel. Parce que vous savez que le diable ayant chuté, où c'est qu'il a été jeté ? Sur la terre, dans les profondeurs de la terre. Il est le prince de ce monde. L'homme était là, non seulement pour dominer sur la création, mais pour dominer sur ses puissances. Il était revêtu pour ce faire. Il avait la capacité pour ce faire. Mais on va y venir, il était libre. Il avait la capacité pour ce faire parce qu'il était en pleine communion avec Dieu. Il lui suffisait d'une chose, de rester soumis à Dieu. De rester dans cette communion parfaite avec Dieu, où il avait tout, où il pouvait jouir de tout. Il lui suffisait, nous pourrions dire, de ne pas désobéir pour remplir ce rôle et pour que Jésus n'ait pas eu à prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle se faisait. Et l'homme qui était de la terre et du ciel, eh bien, il avait ce rôle. On va y revenir tout à l'heure. Une fois racheté de cette malédiction du péché, Éphésiens 3 nous dit « Les dominations et les autorités, en parlant des puissances des ténèbres, connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » L'Église, elle est le corps de Jésus. Cet homme restauré, ce nouvel Adam, parce que Adam a péché. Et c'est par l'Église que les puissances des ténèbres connaissent la sagesse de Dieu. Que les serpents sont écrasés, que les scorpions sont écrasés. Et que le salut de Dieu vient à nouveau régner sur la terre. Eh bien, il en était ainsi au départ. C'était la vocation de l'homme non déchu, bien-aimé. Que Dieu appelait par l'obéissance à ce que son règne soit sur la terre comme au ciel. Maintenant, revenons un instant à quelque chose d'important, de déterminant, qui va avec le cœur de notre sujet. En quoi l'homme est l'ombre de Dieu ? En quoi il est la ressemblance de Dieu ? Premièrement, alors, je crois que tous ces fondements vont nous aider à avoir un feu dans la marche. Et puissiez-vous ne pas les voir comme compliqués, mais comme posant des bases qui vont, oui, faire jaillir une source et un feu dans nos cœurs. C'est parce qu'il est un être moral. Ça veut dire quoi un être moral, les jeunes ? Ça veut dire qu'il peut choisir entre le bien et le mal. L'homme, il est à l'image de Dieu en ce qu'il est un être moral. Deuxièmement, Dieu est libre et l'homme est à l'image de Dieu en ce sens qu'il est libre. L'homme est libre. Il n'y a pas de moralité sans liberté. Vous comprenez ça ? Il n'y a pas de moralité. Il n'y a pas à choisir d'obéir ou de ne pas obéir si on n'est pas libre. Si on n'est pas libre, eh bien on est, comment dirais-je, des pions sur un échiquier. Quand on joue aux échecs, le cheval, si un frère ou une sœur qui est là, elle met le cheval sur une case noire, le cheval, il ne va pas sauter sur la case blanche. Bon, ben le cheval, il n'est pas libre. Il fait ce qu'on lui dit, c'est un pion sur un échiquier. Mais nous ne sommes pas des pions sur un échiquier parce que nous sommes créés libres, à l'image de Dieu. Et nous sommes dotés de cette faculté de choisir entre le bien et le mal. Il n'y a pas de liberté sans choix. Et c'est pourquoi il y a l'arbre de la connaissance. Je crois que c'est une manière un peu simplifiée de voir les choses, de dire, voilà, l'homme, dès qu'il a goûté à l'arbre de la connaissance, alors tout à coup, il a su ce qu'était le bien et le mal. Quand Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres des jardins, mais celui-là, tu n'en touches pas, car tu mourras certainement, il savait évidemment que c'était une mauvaise chose, que le mal existait. Il était face au diable. Nous ne savons pas, le serpent, il est venu parler à Ève. Est-ce qu'ils sont tombés des nues parce qu'il y avait un serpent? Je ne crois pas. Je crois qu'ils étaient en pleine communion avec Dieu. Ils savaient qu'il y avait un potentiel mal. Mais la différence, et c'est le choix que Dieu avait mis à l'homme, c'était soit de désobéir. Dieu lui donnait la connaissance du bien et du mal, mais de lui-même. Dieu lui-même donnait à l'homme la connaissance du bien et du mal. Et en étant soumis à Dieu, l'homme voyait, mais par Dieu, pas par lui-même. Souvent, nous disons dans nos milieux, on a besoin que Dieu nous parle, on a besoin d'une révélation de Dieu. Ou parfois, dans ce que nous appelons les charismes du Saint-Esprit, on a dans une situation difficile, tout à coup, une parole de sagesse. N'est-ce pas? Une parole de sagesse qui nous descend du ciel et tout à coup, tout est clair. Tout devient clair. Tout devient limpide. Cette connaissance, on la reçoit de la sagesse de Dieu. On la reçoit directement de Dieu. L'homme recevait la connaissance du bien et du mal directement de Dieu. Mais cet arbre, s'il le mangeait, parce qu'il désobéissait, et bien sûr c'est une chose mal, donc ce que je suis en train de dire devrait être évident, alors il allait devenir comme un dieu avec un petit dé, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il allait non pas en totale soumission, dépendance et obéissance à Dieu, recevoir l'instruction de Dieu, être mû par Dieu, tout en étant parfaitement libre de faire le mal, mais que le mal allait rentrer en lui. L'homme, il savait que cet arbre était le mal, que cet arbre était mauvais, mais rien n'était rentré en lui. Mais dès le moment où, dans sa liberté, l'homme va manger ce fruit, alors le mal, il va rentrer en lui. Et il va faire l'expérience du bien et du mal à ses dépens, comme un enfant. Un enfant, vous pouvez prendre cet exemple, il a un père qui va lui dire « Ne touche pas le feu, c'est pas bien ». Donc il sait que c'est pas bien, il sait que c'est bien et pas bien. On ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Dès le moment où il va avoir exactement la même chose qu'on lui a donné, « Je veux moi, par moi-même, savoir ce que c'est », il va mettre sa main dans le feu et là, il va se brûler. Et Dieu, contrairement à ce que l'on croit, en particulier en notre temps, lorsqu'il donne un commandement, c'est sa bienveillance, c'est son amour, c'est sa bonté, c'est sa protection. Dieu nous veut rester dans ce jardin de délices. Dieu nous veut demeurer en communion avec le ciel parce qu'il est l'omniscient, il sait absolument quelle route on prendrait en voulant par nous-mêmes faire nos expériences, par nous-mêmes savoir, par nous-mêmes connaître. Et il sait que si ce chemin-là est pris, il va y avoir la souffrance, c'est le péché, c'est la mort qui rentre. Et l'homme fait ainsi lui-même l'expérience. L'homme, il est alors, vous voyez, bien aimé, livré à lui-même. Il devient, dans une certaine mesure, parce que Dieu continue de régner, et c'est lui qui aura le dernier mot, l'homme, il devient indépendant. Il devient autonome. Il cesse d'être obéissant. Il choisit, on pourrait dire, de faire selon lui, de s'obéir à lui-même, de connaître par lui-même. Et l'homme avait ce choix. Et on le sait, il a chuté. Mais il avait aussi le choix d'obéir en restant une créature soumise à Dieu, en se laissant instruire par lui et seulement lui, en dépendant de lui qui est la vie. Alors, ça, nous pourrions dire, parce que l'homme, vous le savez bien, a chuté, c'est deux choses qui doivent être claires devant nos yeux. La vie du monde d'un côté, et la vie du royaume d'un autre. La vie du monde, dont le diable, ange déchu, est le prince d'hommes déchus. La vie de ce monde, la vie de cette terre, où l'homme qui était appelé à faire régner le ciel, eh bien, a chuté. Et alors, celui qui est devenu le prince, celui qui est devenu le roi, c'est Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, n'est-ce pas ? Jésus, quand le diable lui a dit en Matthieu 4, il l'a transporté sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus, il ne l'a pas contredit. Il n'a pas dit, « Non, ce n'est pas possible. » Il n'a pas contredit le diable. Le diable règne. Le diable, il est le prince de ce monde. Un ange déchu qui règne sur des hommes déchus. Un ange qui se prend lui-même pour Dieu. Ne voulant pas se soumettre à Dieu, il croit être quelque chose, une ombre, mais détachée, une fausseté, mais pourtant bien réelle et bien puissante. Régnant sur des hommes déchus qui, exactement comme lui a chuté dans le ciel, ont chuté sur la terre. Jésus lui répondra, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus, il était clair. « Moi, j'adore que Dieu, j'obéis qu'à Dieu, je reçois que de Dieu. Parce qu'aussitôt que je fais l'inverse, ça y est, j'ai mangé cet arbre dont tu as clairement dit, si tu le manges, tu mourras certainement. » Exactement comme disait le serpent, « Vous deviendrez comme des dieux. » C'est la chute. Et à nous, bien-aimés, d'être bien clairs de ces deux royaumes, d'être bien clairs de ces deux mondes, la vie du monde ou la vie du règne de Dieu. Dieu, il est le maître des anges, il est le maître des séraphins. Ils sont embrasés de sa sainteté. Et il y a, à partir de ce moment de la chute, bien-aimés, deux royaumes, et à nous de les voir clairement. Dans le ciel, un royaume, il n'y a aucune opposition, et sur la terre, Satan, prince de ce monde, où il y a l'orgueil, le mensonge, les combats, on veut savoir, on s'oppose, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'harmonie, tout ça, c'est brisé, c'est brisé. Et retenez bien, ils sont tombés parce qu'ils étaient libres, parce qu'ils étaient libres. Mais nous pouvons voir que la création, elle obéit parfaitement à Dieu. La création, comme on l'a dit, c'est loi. Dieu tient la terre. Dieu règne et elle ne chancelle point, n'est-ce pas ? On peut lire le psaume 148, par exemple. « Feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, exécuteur de sa parole. » Marc 4, verset 41. « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Psaume 104, verset 8. « Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. » Mais le diable, bien-aimé, et l'homme, ils n'ont pas exécuté sa parole comme on vient de le lire. Ils n'ont pas obéi et ainsi ils sont sortis des limites. Et pour terminer ce premier fondement-là, j'aimerais vous dire quelques mots sur les trois malédictions. Il y a trois malédictions qui sont venues suite à la chute et qui ont amené cette brisure du monde d'avec le royaume. La première, c'est la domination de l'homme sur la femme. La deuxième, c'est les douleurs de l'enfantement. La troisième, c'est la malédiction de la terre. Et retenez, le diable, lui qui était certainement l'ange le plus haut, le plus près de Dieu, quelle est sa malédiction ? Tu ramperas sur la terre. Vous voyez ? Les malédictions, elles sont tout l'inverse que ce qui était prévu par Dieu. Exactement l'inverse de ce qui était prévu par Dieu. L'homme et la femme, dans l'ordre de Dieu, parce qu'il y a, et c'est profondément biblique et on ne va pas en parler maintenant, il y a un ordre dans le couple. Mais un ordre, ça ne veut pas dire une domination. La domination de l'homme sur la femme, c'est une malédiction qui vient du péché. L'homme est certes l'autorité de sa femme, mais comme Dieu et Jésus nous a aimés, l'homme a un amour, l'homme est un soutien, l'homme est une sécurité, l'homme est une bienveillance. Et l'homme et la femme, lorsqu'ils sont chacun dans cet ordre de Dieu, ils trouvent l'unité parfaite. Ils trouvent le Echad, ils sont un ensemble. C'est ce qu'Adam avait dit lorsque Ève est née, os de mes os, chair de ma chair. Ils étaient qu'un, Aussitôt qu'il y a le péché, l'homme, il va dominer sur la femme. Et la Bible nous dit que ses désirs se portent vers lui. Vous voyez, tout de suite là, il y a une opposition. Il y a un combat qu'il n'y avait pas avant. Deuxième malédiction, les douleurs de l'enfantement. Ils étaient faits pour multiplier. Ils étaient faits pour se réjouir. Ils étaient faits pour remplir la terre. Et aujourd'hui, même si ça reste une grande joie d'avoir des enfants, si vous me présentez une maman qui a eu une grande joie pendant son accouchement, eh bien, je commencerai à douter de ce qu'est Dieu. On sait bien qu'aujourd'hui, ces douleurs nous rappellent la chute, nous rappellent le péché. Et comme je l'ai dit dernièrement, elles nous rappellent aussi la miséricorde, parce que Dieu aurait pu faire comme il a fait pour Noé, mais sans arche, et il aurait été parfaitement juste. Certainement tu mourras, nous aurions dû mourir. Donc il y a une malédiction, il nous rappelle ces choses. N'empêche qu'on donne encore la vie, et il y a de l'espoir. Amen. Troisièmement, malédiction de la terre. Alors qu'il était dans ce jardin, tout lui était donné. Il n'avait pas besoin de travailler à la sueur de son front. Il était dans le jardin des délices. Alors, cette conséquence de la chute, vous l'aurez compris, c'est que l'homme qui était, pourrait-on dire, appelé à être le trait d'union entre la terre et le ciel, il devient de la terre. Comme j'ai mis dans mes notes, pour ceux qui ont un ordinateur, qui savent taper à l'ordinateur, il y a des traits d'union qui sont, comment dirais-je, à la moitié. Et il y a d'autres traits d'union un peu plus grands. On appuie sur CTRL, ou je ne sais plus exactement, vers la gauche, là, et on appuie dessus, et on a un trait d'union, mais un peu plus grand et par terre. Eh bien, c'est ça. On était fait pour être un trait d'union normal, et voilà qu'on est devenu, non pas un trait d'union, mais on est devenu de la terre. On devait servir à amener le règne de Dieu sur la terre, et maintenant, c'est triste, mais c'est la vérité. Nous sommes devenus, je parle sans le salut en Jésus-Christ, il va arriver dans les fondements, bien-aimé. L'homme est devenu un instrument de Satan. L'homme est devenu un instrument du règne du diable sur la terre, alors qu'il était appelé à être celui qui était l'instrument du règne de Dieu sur la terre. Retenez cette phrase, l'homme, au lieu d'assujettir la terre, il va s'assujettir à Satan. Alors maintenant, bien-aimés, même si nous savons que par l'œuvre de la croix, le diable a été dépouillé, qu'il a été vaincu, nous devons être clairs que le diable continue d'avoir une influence. C'est évident pour nous tous. On n'a pas besoin de s'arrêter des heures là-dessus. Mais le diable, et attention, et comprenons bien cela, sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il a été dépouillé à la croix. Il sait qu'il y a une autorité qui a été manifestée et qui peut être donnée aujourd'hui aux hommes, qui renverse les choses. Mais il sait qu'au dernier jour, il n'y aura plus l'ombre d'une discussion. Il sera lié pendant 1000 ans, relâché pendant un temps après ces 1000 ans, et ensuite il sera dans les temps de feu pour l'éternité. Et ça, c'est fait pour lui. S'il a été dépouillé à la croix, il y a une volonté permissible de Dieu. Le diable continue d'être le prince de ce monde. Je le répète, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous le savons, bien-aimés, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais vous dire que le diable, parce qu'il sait qu'il est vaincu, il va se battre et se battre jusqu'au bout. La seule victoire du diable, c'est d'entraîner le plus grand nombre dans sa défaite. La seule victoire du désobéissant, c'est que nous désobéissions. Et vous savez, j'ai appris ça dernièrement, une bête sauvage, quand elle est à même de mourir, c'est là où elle est la plus dangereuse. Parce qu'elle jette ses derniers efforts dans la bataille, comme par un instinct de survie, vous voyez. Pour se défendre. Et c'est là où elle est la plus violente. C'est là où elle est la plus dangereuse. Et nous arrivons à la fin des siècles. Nous sommes, depuis que Jésus est venu, dans ces temps de la fin. Mais plus que jamais, nous qui vivons en 2013, le Messie est à la porte. Notre délivrance approche. Et si nous disons notre délivrance approche, c'est que la défaite finale du diable, elle approche aussi. Alors, le diable est plus rugissant que jamais. Et je le répète, sa seule victoire, c'est d'entraîner le plus grand nombre dans la défaite. Parce qu'il n'en aura pas d'autre. Et le diable, il est mauvais. Vous savez, des fois, on prend cette image du lion rugissant, mais si on se trouvait dans une jungle et qu'on entendait rugir, bien-aimés, eh bien, le diable, il rugit. Et il veut nous entraîner dans sa chute. C'est ce qu'il a fait pour l'humanité, mais Jésus étant venu pour le clouer à la croix et permettre que nous puissions être restaurés, j'y viens, eh bien, le diable, ça, il ne le supporte pas. Et il ira au bout. Et il fera tout pour nous entraîner dans cette désobéissance, pour que nous nous soumettions, que nous en soyons conscients ou pas, et c'est pour ça que de poser ces fondements nous aidera à être bien clairs, que nous puissions lui obéir à lui, nous soumettre à lui. Il est le prince de ce monde, ça veut dire nous soumettre au monde, nous soumettre aux choses de ce monde. Et le diable, même s'il est bien un lion rugissant, eh bien, un lion, il n'attaque pas comme ça de front. Il va faire toute une ronde. Il va bien se préparer. Il va se cacher. Il sait comment attaquer pour atteindre sa proie. Ne croyons pas que le diable va nous venir de face. Pourrions tous dire non, non, non. Mais souvenez-vous de la chute. Ne soyons même pas à ce point orgueilleux pour croire ça. Parce que Dieu, il avait dit clairement, cet arbre-là, tu vois, il est en face de toi. T'en touches pas. Ben, l'homme, ça a été plus fort que lui. Il a voulu connaître, il a voulu faire par lui-même, il a voulu croire qu'il pouvait hors de lui-même. Et le diable, qui est le prince de ce monde, il va nous proposer plein de choses. Et on le verra, si on peut, dans la deuxième session ou la troisième, que de nos jours, le diable est plus puissant que jamais, plus subtil que jamais, que ces derniers siècles ont façonné le mystère de l'iniquité qui arrive à son comble. Et c'est pourquoi il est plus que jamais sérieux et important d'être clair de chez clair. Le diable a chuté, la race humaine a chuté avec lui, il est le prince de ce monde, moi qui étais fait pour être l'ombre de Dieu, j'ai désormais, j'y viens, une nature déchue que le diable utilise. Qu'est-ce que le diable utilise? Notre nature déchue. Il joue sur la chair. Il y a cette chair en moi, moi qui étais esprit et corps, mon âme moteur et instrument de cela, mon âme et mon corps, et même mon esprit il est mort, mais mon âme et mon corps, la chair me pousse à la terre. Et le diable influence là-dessus, et il veut m'entraîner avec lui. Il veut que je me soumette à lui, mais le diable, quand tu te soumets à lui, tu n'as aucune impression de te soumettre. T'as au contraire l'impression d'être libre, l'impression de choisir par toi-même. Mais c'est là la soumission au diable. La soumission au diable, c'est la soumission à Dieu. C'est aussi simple que ça. Je répète, la soumission au diable, c'est l'insoumission à Dieu. Comment savoir si nous ne sommes pas soumis au diable? C'est d'être des enfants obéissants. C'est de savoir que nous obéissons. C'est de savoir qu'il y a un royaume, un règne où personne discute. Mais où il y a un Dieu qui règne, et où il y a un bonheur, ce bonheur que tous les hommes déchus, influencés par le prince de ce monde, ne cessent de chercher. Il est là-bas, il est là-haut ce bonheur, et il y a un Dieu qui règne. Et vais-je être un enfant de ce royaume des cieux, ou être un enfant de cette terre? Et on a absolument besoin de connaître, de savoir réellement ce qu'est l'obéissance et de vivre jour après jour dans l'obéissance. Ce n'est que comme ça que nous ne serons pas soumis au diable. Le diable, bien aimé, en hébreu ça veut dire l'opposant, l'adversaire. C'est notre adversaire. C'est lui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il s'oppose au règne de Dieu. Il est tout l'inverse de Dieu. Il ne veut pas des fondements de Dieu. Il est le désobéissant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ephésiens 2, 3. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. À cause de la chute, nous avons une nature de péché. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Je crois que ce devrait être au cœur de toute authentique prédication. On ne peut pas clairement comprendre la croix, clairement comprendre la conversion, si on ne comprend pas avant tout qu'on a une nature de péché. On n'a pas que des péchés, on a une nature de péché. Et Dieu veut nous sauver, nous libérer de cette nature de péché. Que nous puissions dire, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été baptisés, ça veut dire immergés en sa mort. C'est qui nous ? C'est cette nature de péché. Et le diable, il joue sur cette nature de péché. Il influence cette nature de péché. C'est pourquoi, puisse Dieu nous donner la grâce. Et peut-être nous allons faire une petite pause avant que je continue la deuxième partie de cette première partie, pour que cela soit clair. Parce que c'est un fondement capital. Il y a le diable qui a chuté. Nous avons donc une nature de péché soumise à la vanité. Et nous sommes par nature des enfants de la colère. Parce que le diable, vous avez vu, il a été jeté bas. Et nous serons jetés bas. Nous serons liés avec lui pour aller dans l'enfer éternel. Et le diable est en rage. Et il faut que ces deux réalités, ces deux chemins, ils soient clairs, nets et précis devant nous, mais encore plus en nous. Il y a une nature en moi, de la même manière que le diable a été bien dépouillé à la croix, mais qu'il est encore agissant aujourd'hui. Nous avons pu faire l'expérience de la nouvelle naissance pour avoir une nouvelle nature, la nature de Christ, mais nous gardons cette nature charnelle, cette nature qui fait de nous des bêtes, et non, encore pire que des bêtes, bien-aimés. Parce que nous sommes dotés d'un esprit, nous sommes encore pire que les bêtes. Parce que nous avons une ingéniosité au mal que les bêtes n'ont pas, une perversion que les bêtes n'ont pas. Et nous devons voir clairement cela, bien-aimés. C'est vrai que nous étions faits pour être corps, esprit, mû par une âme pour vivre sur cette terre. Mais à cause de la chute, on va le voir, alors, je ne vais pas trop en parler maintenant, mais notre vocation, notre destinée, on a une vocation, une destinée, on y reviendra sur cette terre, mais pour une seule chose, la seule véritable réalité pour nous, c'est la résurrection, bien-aimé. C'est la vie du monde à venir, c'est le royaume. Je ferai un séminaire, peut-être en été, uniquement sur l'évangile du royaume. Je ne dis pas l'évangile de la prospérité, l'évangile de la bénédiction, bien que ce soit bien une bénédiction. Mais l'évangile du royaume, l'évangile du règne de Dieu, l'évangile de ce qui était, de ce qui est déjà là, des arts en nous, mais de ce qui vient. Nous sommes faits pour son règne, nous sommes faits pour l'adorer, nous ne sommes plus faits pour cette terre. Oui, pour 1000 ans, mais quand le diable sera lié et quand nous serons ressuscités. Nous ne sommes plus que faits pour le règne de Dieu. Et ça, ça doit être clair. Je crois que ce monde, blessé par le péché, se pose une même et unique question. Quel est le sens de ma vie ? À quoi je sers ? Quel est le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est le règne de Dieu. Le sens de la vie, c'est d'être racheté. Le sens de la vie, c'est d'être réconcilié avec... C'est d'être une ombre réconciliée avec son auteur, avec son créateur, avec le vivant. Il n'y a pas d'autre sens à la vie. Et cet auteur, ce vivant, il viendra régner pendant 1000 ans sur cette terre et ensuite il rentrera. Le ciel et la terre, ils passeront. L'Apocalypse est clair, le ciel et la terre passeront. Et il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et Dieu habitera avec nous. Tu n'es pas fait pour cette terre présente. Cette terre présente, elle est influencée par le diable. Le prince et le roi de cette terre, c'est le diable. C'est pas Jésus. Mais Jésus est appelé à venir être le Seigneur de notre vie, à redevenir le Seigneur de notre vie, pour que nous soyons des enfants qui appartiennent au royaume, et donc qui obéissent au royaume, qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont des enfants, des citoyens des cieux, assis dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. C'est là ma position. Ma position, c'est le règne de Dieu. Ma position, c'est pas cette terre. Et ça, il faut que je sois clair. Mon véritable être, ma véritable identité, qui suis-je ? C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ma nature, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Mon chemin, c'est Christ. Ma vérité, c'est Christ. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Le seul chemin, la seule destinée, la seule identité. C'est lui. Et il faut vraiment, pardonnez-moi d'insister, mais être très clair de cela, bien-aimé. Parce que le propre du diable, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas un être qui va nous attaquer de front, c'est de nous donner d'être dans la confusion. C'est de nous donner de ne pas être clair. C'est pourquoi avant de parler, on va obéir, on va mettre en pratique, on va parler de plein de choses pendant ce week-end. Il nous faut poser le décor, si je puis dire. Il faut poser les fondements pour dire, attends, là, sur quoi je marche? Notre frère maçon me disait, il y a quoi, 2 jours? Attends, il avait besoin d'un laser, parce qu'on fait une petite cour pour que les enfants puissent jouer. Si j'ai pas mon laser qui mesure la profondeur exacte pour couler les fondations, et on rigolait en exagérant, si tous les enfants se mettent d'un côté, il y a tout qui va se renverser. On a besoin de fondations claires. Et les fondations claires, pour nous aussi, on a besoin du laser de Dieu. D'un laser clair. Sur les réalités, nous pourrions dire extérieures à nous, le royaume des cieux et le royaume de ce monde. Le royaume des cieux auquel toutes les créatures sont soumises parce que Dieu règne. Et elles sont instruites, elles restent libres, mais instruites et bénies de Dieu. Et le royaume de ce monde, où tout le monde est soumis à lui-même, où tout le monde est indépendant, autonome, se croit libre, esclaves qu'ils sont. Ça, c'est les choses extérieures. Et n'oubliez pas une chose, ces choses extérieures, elles sont éternelles. Même si le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu, elle ne passera pas. Et la parole de Dieu dit que le diable, avec tous ses anges et tous ses démons, et tous ceux qui n'auront pas, on va y venir, obéi à la foi pour être sauvés, eh bien, éternellement, ils brûleront. Et éternellement, nous adorerons. Ce sont des réalités éternelles. Soyons bien clairs. Soyons bien clairs. À l'extérieur, mais aussi en nous. En nous. En moi, il y a une nature de péché. Elle appartient à ce royaume. Ce royaume va tout faire bien subtilement, si je ne suis pas clair de chez clair, pour me mettre dans la confusion. Et oublier que si, je le dirais plus comme cela, même si théologiquement on dit la nouvelle naissance, j'aime ne pas parler trop vite de nouvelle naissance, mais d'expérience avec Dieu. Quand on fait une expérience avec Dieu, c'est vrai qu'il y a nouvelle naissance, je suis absolument d'accord. Mais j'aimerais imaginer cela comme un bébé qui est conçu. Un bébé qui est conçu et qui est dans le sein de sa mère. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il s'ouvre à la vie. Et si vous voulez, si même cette image vous dérange, un bébé qui marche encore à 4 pattes, il est fait pour devenir un homme. Il est fait pour devenir une femme. Nous ne faisons pas une expérience avec Dieu simplement pour avoir une sorte de chaleur dans le cœur, se sentir bien, se sentir béni, et de rester dans la confusion. Si tu as fait une expérience avec Dieu, il y a une nouvelle nature qui a été mise en toi. Et cette nouvelle nature, elle appartient au royaume de Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si tu as vécu une expérience avec Dieu et que tu as reçu la nature de Christ, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis sauvé, mais je reste libre, je ne suis soumis à personne, si ce n'est à Dieu, comme je le sens », je ne pense pas que ce soit quelqu'un de sauvé, vous voyez. Quand on reçoit la nouvelle nature de Christ, cette nature, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mais vous appartenez au règne. Dieu a versé son sang pour vous donner cette grâce vivante, efficace en vous, pour vous laver de votre péché et pour vous donner une nouvelle identité. Mais cette nouvelle identité, Elle est pleinement soumise à Dieu. Elle est totalement dépendante de Dieu. Et, aussi, et si ça, c'est pas clair, on va être dans un marasme, dans une confusion, et on va rester des bébés. C'est obligé. On va rester des bébés. On va pas grandir comme Dieu veut nous faire grandir, et on va pas rentrer dans la vocation que Dieu a pour chacun de nous. Parce que dès qu'il crée quelqu'un, qu'il recrée, on va dire, quelqu'un, eh bien ce quelqu'un, il a une vocation. Ce quelqu'un, il a quelque chose à faire. Mais dès que ce quelqu'un qui a une nouvelle nature ne comprend pas clairement ses fondements de la chute dont on a parlé, ben il va chuter. Il va chuter à son tour. Il vaut mieux être clair pour comprendre alors quel est notre chemin. Et ça ne doit pas nous faire peur. Parfois, ça peut tout à coup dire « Ouh là là, mais alors, finalement, mais je perds ma liberté. » Voilà l'homme déchu. Voilà cette loi du péché qui est encore en nous. Voilà ce déguisement de l'adversaire qui est en nous. La preuve que la séparation n'est pas clairement faite en nous. La preuve que nous appartenons encore aux deux mondes. Mais quand Jésus viendra, il séparera clairement d'un côté les boucs, d'un autre côté les brebis. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? J'aimerais que l'on fasse une petite pause avant de finir cette première partie en nous plaçant tous devant Dieu, bien-aimés, en lui demandant de nous donner d'être clairs. Voyez, pour nous aider dans cette petite pause, je vous donnerai un dernier point. Parce que nous avons chuté, la Bible nous dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Notre nature de péché nous prive de la gloire de Dieu. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous avons besoin, bien-aimés, de retrouver cette vision de Dieu. Et puisse Dieu tous nous aider au travers de cette première partie qui est plus de l'enseignement, nous aider à retrouver la vision de Dieu, à retrouver la vision de son règne, à retrouver la vision de sa souveraineté, à retrouver la vision de son autorité, à retrouver la vision du royaume, du maître du monde. Jésus lui répondit à Nicodème qui pensait savoir, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que nous puissions voir clairement ces fondements de Dieu, que nous puissions alors voir clairement l'enjeu. L'enjeu, nous allons y venir dans ce monde, mais l'enjeu en nous. À qui appartiens-tu ce matin ? Es-tu né de nouveau ? Et si tu es né de nouveau, es-tu donc dans la joie et dans l'authentique liberté soumis à celui que tu appelles Seigneur ? Ou l'appelles-tu Seigneur tout en subtilement et de manière confuse et peut-être même inconsciente, tout en restant ton propre Seigneur, tout en gardant ce que tu crois être, et nous y reviendrons, ta propre liberté ? Ou est-ce que tu ne t'appartiens plus en vérité ? Est-ce que tu peux dire comme Paul, c'est plus moi qui vis ? Non, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, c'est le Messie, Christ le Oint, c'est Dieu qui vit en moi, c'est l'Esprit qui vit en moi. Une authentique vie de l'Esprit, dépendante de ce royaume du ciel, de ce royaume des cieux auquel j'appartiens, pour lequel l'homme était fait, mais parce qu'il a chuté, Jésus est venu pour le réconcilier avec cela. Et donc c'est notre destinée, c'est vers là qu'on marche, c'est pour cela et pour rien d'autre que nous sommes faits. Éternel, aide-nous à voir ça clairement en nous, rends-nous la vision du royaume. Nous avons besoin de voir la chute dans ce monde et en nous, de voir clairement. Alors oui, par ton esprit, convainc-nous de pécher dans ta bonté, Seigneur. Fais cette séparation claire en nous. Montre-nous ce monde déchu, ce monde mauvais, ce monde sournois et humaniste qui voudrait jouer sur nos sentiments, sur cette nature déchue. Le diable joue sur tous les appétits de cette nature déchue. Aide-nous à voir ce monde et aide-nous, ô Éternel, en nous-mêmes, à voir cette nature influencée par ce monde babylonien, influencée par cette terre. Montre-nous en nous ce qu'est la chair, ce qu'est la vieille nature, notre vieille nature. Aide-nous à l'identifier. Alors nous pourrons nous désidentifier. Oh non, pas par nous-mêmes, mais comme nous en parlerons dans cette deuxième partie, par Jésus-Christ, par l'obéissance de la foi. Aide-nous à voir clair ces choses. Mais aide-nous aussi, ô Éternel, à voir clair ton règne, à voir clair ton royaume, à voir clair ce qui était et ce qui vient, à entendre déjà ce qui est encore dans ton ciel, ces chants angéliques, cette gloire majestueuse. Aide-nous à voir la beauté de ces anges. Aide-nous à prévoir le rayonnement de nos visages glorifiés lorsque tu viendras pour réparer cette brisure de ce monde et cette brisure dans les hommes. La création toute entière attend la révélation des fils de Dieu parce qu'elle a été soumise à cette vanité. Aide-nous à voir cela, Père. Montre-nous ton règne, montre-nous ta beauté et montre-nous aussi Christ en nous. Réveille Christ en nous. Comme le dira l'apôtre aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'illuminera, le oint t'illuminera, le oint te montrera, et tu sauras qui tu es, où tu vas, à qui tu appartiens, et tu t'en réjouiras. Et oui, tu seras libre, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Et Paul parle à la manière des hommes, parce que oui, si nous sommes de cette terre, nous sommes devenus les esclaves du malin, croyant être libres. Alors que si nous appartenons à Dieu, esclaves devenus esclaves de Dieu, nous sommes de vrais enfants de Dieu, de vrais hommes et de vraies femmes, libres, bénis, dépendantes de celui qui est l'être, de celui qui est le je suis, de celui qui est la vie, de celui qui était, qui est et qui vient. Montre-nous, illumine-nous, Père Céleste, alors nous t'obéirons avec cette nature dont tu nous as fait tant de grâce pour la mettre en nous. Ô Seigneur, nous t'obéirons, nous nous soumettrons à toi et cela deviendra du miel, un véritable miel, la bénédiction des bénédictions. Ô, aide-nous, Père Céleste, à voir ces choses et tu seras le premier content. Amen.